8h21.
France Inter. Le 7-9. Nicolas Demorand.
L'invité du grand entretien ce matin fut ministre de la Culture et de l'Éducation. Il est aujourd'hui le président de l'Institut du Monde Arabe. Léa Salamé, vous intervenez dans 10 minutes. Vos questions, amis auditeurs, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Jack Lang.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Le Premier ministre Édouard Philippe entame aujourd'hui l'évaluation des ministres de son gouvernement. Bilan d'étape et perspective au bout d'un an d'action. La presse s'amuse à en noter certains, à commencer par le ministre de l'Éducation nationale qui va ouvrir ce bal évaluatif. Passable, honorable, félicitations du jury. Comment jugez-vous l'action de Jean-Michel Blanquer, vous qui avez occupé ce poste, Jack Lang?
J'ai été professeur, c'est le plus beau métier du monde. La seule chose que je n'ai pas aimé faire, c'était donner des notes.
Mais vous l'avez fait pourtant, et je vous demande de le faire sur votre lointain successeur, Jean-Michel Blanquer.
Je dirais honorable.
Ah, honorable.
Oui.
Seulement.
Et parfois bien.
Et
c'est variable selon les sujets. Il a été bien par le retour du latin et du grec, le rétablissement des classes européennes. Je suis content que enfin il se soit réveillé un tout petit peu pour les arts à l'école en reprenant le plan une chorale par classe et en confiant cette mission à un de mes anciens collaborateurs, Marc-Olivier Dupin, qui est un vrai grand professionnel.
Et sur quoi
j'approuve toutes les expériences qu'il mène sur l'enseignement des mathématiques, sur toute une série de choses. Bon, les points sur lesquels je suis en réserve, il n'a pour l'instant rien fait pour la formation des maîtres, qui est la question clé de la réussite des élèves. Et il a été trop timide, en effet, pour la culture et les arts à l'école.
Mais c'est très difficile de trouver des gens qui veulent être professeurs aujourd'hui. Les vocations, la vocation est en crise.
Oui, mais ça,
alors qu'est-ce qu'on fait?
Non, ça c'est le fruit de 15 ans de politique d'abandon. On a d'abord supprimé, sous l'époque Sarkozy, des milliers, des centaines, des dizaines de milliers, pardon, de postes. On a supprimé les écoles de formation des maîtres. On a donc dégoûté, écœuré. Et pour remonter la pente, ça réclame un effort, de l'entêtement, et je pense que Jean-Michel Blanquer s'y emploie.
Alors on voit que vous aimez bien noter en fait, et que vous notez plutôt précisément. Et la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, quelle note, Jack Lang?
D'abord je la note comme, si j'ose dire, parce que je me contredis à l'instant, je l'apprécie plutôt.
Oui.
Je l'apprécie comme personne, c'est une femme qui a une vraie humanité.
La copie.
Comment ?
La copie.
Oui, mais la copie de sa vie aussi, de ses actes, sa culture. Moi, j'aime les gens qui ont fait les choses.
Oui, mais c'est aujourd'hui l'examen.
Alors aujourd'hui, bon, après une période où elle paraissait un peu perdue, j'ai l'impression qu'elle reprend un peu la main.
C'est peu. Ça, c'est pas terrible, mais peut mieux faire.
Et puis, il y a des sujets sur lesquels je l'appuie, évidemment.
Mais
écoutez, je ne veux pas me transformer en juge suprême,
non,
que je ne suis pas.
Non, mais on a toujours dit qu'il était très difficile d'être ministre de la Culture après Jack Lang, comme il était très difficile d'être ministre de l'Intérieur après Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique culturelle en France ?
Alors ça, c'est un autre grand sujet qui dépasse les personnes, si vous voulez.
Mais est-ce qu'il y en a une ?
C'est assez fragmentaire. Il y a des esquisses d'action.
Il y a des dossiers, mais est-ce qu'il y a une politique, une ambition ?
Non, on ne sent pas, si vous voulez, que l'État, au-delà des personnes, que l'État est porté par un souffle, par une volonté, par une détermination... comme ça peut être le cas en d'autres époques. Nous considérions, mais il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, nous considérions avec François Mitterrand que l'art, la culture, devait pleinement faire partie de la vie, était au cœur même de la société. C'était même le cœur du cœur du cœur.
Et que c'était un ministère quasiment régalien, la culture.
Finalement, oui. C'est-à-dire que le ministère de la Culture était très présent, pas seulement pour ce qu'on appelle culture, mais aussi dans le domaine des sciences, dans le domaine de la politique internationale, dans le domaine des technologies. Et puis, l'amour se prouve par des actes. Notre volonté budgétaire a été de rock du début à la fin, y compris dans les années difficiles comme 83 ou 93. On n'a pas cédé, et généralement le ministère de la Culture et celui de la Recherche ont échappé à l'austérité. Bon, en ce moment, on constate que malheureusement, les choses sont progressivement rabotées, même si François Nissen a réussi à sauver l'essentiel. Ce qui est plus préoccupant, c'est que le fait que l'État donne moins le là aujourd'hui, entraîne les collectivités locales à se retirer. Un exemple, le Festival d'Avignon s'ouvre dans quelques jours. J'ai appris avec stupéfaction que la ville et l'agglomération retiraient 10% de leurs contributions. C'est inadmissible.
Et ça, c'est à cause du désengagement de l'État ?
C'est une sorte de désengagement global, général. Et je pense qu'il faut que dans ce domaine, l'État donne le là, donne l'envie, indique le cap avec force, avec détermination et aussi avec enthousiasme.
Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas de politique culturelle, Jack Lang ?
On peut pas dire cela lui-même. C'est un homme cultivé, incontestablement. C'est un homme qui s'intéresse, qui suit la vie littéraire, cinématographique.
Mais lire des livres, est-ce que ça fait une politique culturelle ?
Pas nécessairement.
C'est mieux que de ne pas en lire, mais...
Peut-être que soyons optimistes, une nouvelle phase va s'ouvrir.
La chose est passée relativement...
Mais il y a des choses quand même qui sont plus graves que le budget lui-même. Il y a le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'esprit de service public, ça fait un peu ringard de dire ça, bon, l'esprit de service public s'érode. Les compagnies financières, les multinationales prennent ici et là le pouvoir. Dans quelques jours, les festivals de musique d'été... On a laissé une entreprise multinationale, Love Nation, créer un festival monstre, et en créer un deuxième au moment même où s'ouvrira Rock en Seine. Donc établir une concurrence déloyale, faire grimper les prix des artistes, les prix des places. Et donc du coup on se retrouve dans un système de compétition infernale. Tandis que, j'aurais voulu interroger Madame Gouraud, comme vous l'avez fait d'ailleurs, je crois, tout à l'heure. Tandis que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb, fait payer au Festival de France et de Navarre le remboursement de frais de sécurité de plus en plus hallucinant en termes de montant.
C'est-à-dire que les policiers, gendarmes mis à disposition des festivals par l'État... Eh bien, la facture est payée par les organisateurs.
Alors, pour certains, c'est supportable. Pour d'autres, c'est la mort. Et même pour ceux qui résistent, par exemple, Eurocaine, qui est un festival indépendant, d'un grand festival qui célèbre son anniversaire cette année. C'est, paraît-il, j'arrive même pas à le croire, 800% d'augmentation des dépenses de sécurité. Je ne comprends pas que Gérard Collomb, qui a été un bon maire pour la culture, soit un aussi désastreux ministre de l'Intérieur pour les arts.
Et vous lui dites qu'il faut retirer cette circulaire d'urgence si on ne veut pas assécher le terrain des festivals en France.
Il doit la modifier absolument et tenir compte en particulier de la réalité économique et culturelle.
Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour les auteurs ? Les auteurs, aujourd'hui, Jack Lang, cherchent tout simplement, je vais le dire bêtement, à défendre leur métier. Ils sont étranglés financièrement, à part quelques-uns. Beaucoup vivent avec le SMIC, ou moins. Ils craignent qu'à terme, il ne soit plus possible même d'exercer ce métier si particulier en France. On fait quoi ?
On fait quoi ? Eh bien, il faut que les mots aient un sens. Lorsque j'ai inventé, entre guillemets, cette expression « exception culturelle », ça ne vaut pas seulement pour les relations entre les États-Unis et la France, ça vaut aussi pour la situation des artistes et leur statut. Nous avions en son temps imaginé l'étalement dans le temps de la fiscalité, parce que les rémunérations sont changeantes, sont en dents de scie. Et aujourd'hui, la situation est très préoccupante. La hausse de la CSG... est difficilement supportable, notamment en raison de ses activités en dents de scie. Le système de rémunération de certains auteurs, notamment les auteurs de bandes dessinées, ne leur permet pas de vivre. Les dessinateurs, n'en parlons pas. Et vous savez, c'est un métier long, c'est un an, deux ans, trois ans.
Mais faudrait imaginer un statut du type de celui de l'intermittent, ce qui permet précisément, ou alors faire rentrer les auteurs dans le statut de l'intermittent. Que feriez-vous ?
Non, mais je pense qu'en effet, nous l'avions fait en son temps, je pense qu'il y a des règles spéciales à imaginer. Par exemple, appliquer aux auteurs, aux artistes, le système de du prélèvement à la source, c'est un non-sens, puisque en effet les rémunérations sont changeantes selon les moments de l'année. Oui, en effet, il faut un statut spécial et il faut le faire avec l'assumer pleinement, si on veut pas que les jeunes auteurs en particulier disparaissent. En même temps, il faut se bagarrer à Bruxelles pour éviter. Et François Nicel le fait. Vraiment, elle l'a fait dès son arrivée, avec pugnacité. Jean-Michel Jarre, lui aussi, est allé sur place pour éviter que l'on ne banalise les droits d'auteur. Il y a aussi une question, vous le savez, au moment où s'ouvre le Festival d'Arles, pour les photographes qui sont véritablement maltraités, exploité par comparaison.
Françoise Nicel a avancé un certain nombre de mesures. La bataille est à l'échelle européenne, Jacques Lang, et je donne la parole à Léa Salamé. La directive droit d'auteur doit être révisée. Prochain rendez-vous crucial après-demain. Est-ce que vous appelez les députés européens à voter la nouvelle mouture de cette directive alors qu'ils ont fait l'objet d'un lobbying extraordinairement puissant de la part des GAFA?
Oui, bah, il doit vrai. Ils sont le Parlement européen.
Ils doivent résister.
D'abord, il y a beaucoup à faire sur ce que vous appelez GAFA. Je veux dire que on a beaucoup parlé. Maintenant, il est temps d'agir. C'est là aussi ce que l'on réclame, si vous voulez, c'est que l'État redevienne l'État, que l'Europe redevienne l'Europe, et que la puissance publique s'exprime avec force. C'est inadmissible que ces puissances privées, ces puissances d'argent dominent le marché de l'art, le patrimoine et tous les autres secteurs de la culture. Il faut qu'aujourd'hui, la souveraineté publique s'impose contre les lobbies.
8h32, Jacques Lang, invité de France Inter ce matin. Léa Salamé.
Jacques Lang, je vous ai pas entendu citer la mesure phare de la politique culturelle d'Emmanuel Macron. Il l'avait annoncé dans sa campagne, le pass culture, 500 euros à chaque jeune de 18 ans pour aller au théâtre, pour se payer des cours de guitare ou une semaine d'archéologie. Le pass culture, est-ce que c'est bien ?
Je réserve mon appréciation. Non, je réfléchis, j'essaie de comprendre. Cette idée de pass culture a été empruntée à l'Italie de l'époque de Renzi. D'ailleurs, j'en avais parlé en son temps avec Renzi, je lui avais dit mon scepticisme. Finalement, ça s'est pas très bien passé en Italie. On doit quand même s'inspirer des expériences des autres pays. Finalement, le pass culture a profité surtout à la fréquentation de spectacles de pur divertissement, genre Love Nation, qui sont déjà très riches, et pas nécessairement à l'élévation culturelle de la jeunesse. Et ça n'a pas beaucoup encouragé ni la fréquentation des musées en Italie, ni la fréquentation des monuments, ni la fréquentation du théâtre. Donc, je crois comprendre que le gouvernement réfléchit, teste, il a raison, qu'il prenne son temps. Et puis, je dirais, c'est une idéologie qui n'est pas la mienne.
Pourquoi ?
Si vous voulez, quand on a fait la loi sur le prix unique du livre, on fonde la vision de la culture sur le sentiment que c'est à partir de la création, de l'invention, que doit s'établir une politique des arts. Et en même temps que l'on construit ce que nous avons fait, des bibliothèques, des centres de lecture.
D'accord, mais en quoi ce pass culture vous gêne ?
Ici, parce que si vous voulez, la pure consommation, ce n'est pas ça qui apporte un vrai changement. Tout à l'heure, nous parlions...
Ça passe par ça, non ?
Pardon ?
Ça passe par ça, d'attirer les jeunes vers la culture. Mais si un jeune de 18 ans peut se payer un an de cours de guitare, par exemple, est-ce que c'est pas bien ?
Mais qu'on encourage les institutions à le faire, d'ailleurs, elles le font. Quand vous voyez comment l'Opéra de Paris, qui est devenu aujourd'hui l'un des premiers du monde, offre certains jours des places à des jeunes, quand vous voyez de quelle manière certains musées sont devenus de véritables universités, de véritables écoles, qu'on fasse confiance aux institutions, qu'on les encourage à ouvrir largement les portes au lieu de favoriser une sorte de mentalité consumériste. Et l'argent dont on parle, d'où viendra-t-il ?
80% de fonds privés.
Alors, lesquels, comment, on verra bien.
Donc on entend votre scepticisme en tout cas ce matin.
Oui, mais je demande, si c'est confirmé comme étant une bonne mesure, je l'approuverai. Pour l'heure, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il est préférable, je reviens à mon obsession, d'organiser une entrée en masse et en force de l'art à l'école et de donner à tous les jeunes Français l'occasion d'apprendre, de découvrir, y compris de pratiquer la guitare.
Question au
à l'école.
D'accord. Question au professeur de droit public que vous êtes, de l'ancien professeur de droit public que vous êtes, la réforme constitutionnelle qui arrive là, l'inscription de la Corse dans la constitution de l'environnement à l'article 1er, la réduction du nombre de parlementaires, du nombre de mandats. Est-ce qu'elle va dans le bon sens selon vous, cette réforme?
Pourquoi pas? J'ai participé, vous le savez, à une réforme
Sarkozy.
La réforme Sarkozy, qui était d'une grande ampleur, puisqu'elle augmentait les droits du Parlement et les droits des citoyens. Et j'en suis rétrospectivement fier et heureux. Cette réforme est relativement modeste par comparaison.
Vous la trouvez pas assez ambitieuse?
Ben aujourd'hui, il faudrait au contraire, je dirais, augmenter les droits du Parlement, la capacité d'évaluation des politiques publiques, elle devrait être renforcée.
Comment vous jugez la virulence des critiques de Dominique de Villepin la semaine dernière à ce micro, ou de Jean-Louis Borloo qui a parlé d'une vision de la Macronie qui est inefficace et dangereuse, d'une monarchie? Les langues se délient, vous pensez qu'on tape trop vite, trop fort?
Moi, je préfère parler du fond des sujets plutôt que d'attaquer les personnes. Emmanuel Macron a apporté dans la vie publique française un air nouveau. C'est un homme intelligent, cultivé, qui peut-être en effet a une manière un peu trop personnelle, comme on dit verticale, de mener les affaires du pays. Mais moi, je préfère parler des questions de fond. Par exemple, le patrimoine. Je reviens à la culture. Pourquoi pas une loterie? Je suis pour. Mais en même temps...
Ah, là, vous attaquez le projet Berne.
J'attaque
Stéphane
pas
Berne.
Non, je l'attaque pas. Je dis pourquoi pas, c'est une chose qui est une bonne chose. Mais les crédits globaux du patrimoine public stagnent. Et par ailleurs, on laisse à l'abandon le patrimoine, l'urbanisme à des sociétés privées. C'est cette pénétration, si vous voulez, des compagnies financières dans la vie de tous les jours qui devient une inquiétude.
C'est le libéralisme, Jacques
Lang. C'est ce qu'on appelle le libéralisme, peut-être.
Mais c'est assumé par le président de la République.
Au moment où on va célébrer en septembre prochain cet événement que j'ai créé, la fête du patrimoine, dans le même temps, on laisse se construire des choses hideuses, abominable, et ça, il faut s'y opposer, il faut l'empêcher, et on ne protège pas. Par ailleurs, le patrimoine du XXe siècle, je pense notamment à la maison du peuple de Jean Prouvé à Clichy, ou l'école de Suresnes. Bon, on a envie, si vous voulez, que dans ce domaine, l'État soit l'État, et échappe à toutes ces pressions
des
entreprises privées.
Merci Léa, pour ce soutien et ce renfort. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Alors, dites-nous qui vous êtes et pourquoi vous nous appelez.
Non, j'appelle pour faire une rectification. J'ai été un peu choquée d'entendre M. Lang, mais je suis adjointe à la mairie d'Avignon.
Ah.
Donc, M. Lang a dit que la ville et l'agglomération retiraient, qu'il avait appris avec stupeur, que la ville et l'agglomération retiraient 10% de subventions au Festival d'Avignon.
Et c'est faux?
Et c'est totalement faux, c'est une fake news qui circule, je le sais, c'est faux. Alors nous avons retiré 5% de subventions parce qu'on en pouvait, on était complètement étranglés la première année. Nous avons été élus en 2014-2015, mais depuis, la subvention reste égale absolument et nous n'avons plus jamais reproduit de baisse. Donc voilà, je voulais absolument rectifier cela.
Merci Madame l'adjointe Laurence. Donc j'ai pas votre nom de famille. Jacques Lang, vous voulez dire un mot?
Oui, un mot. C'est les informations qui m'ont été données par la direction du Festival d'Avignon. C'est 5%. En effet, qui ont été coupés l'an dernier, mais vous maintenez votre diminution. Cette année, vous n'avez pas réparé l'erreur commise l'année précédente, et l'agglomération diminue aussi de 5%. 5 plus 5, je suis pas très fort en maths, ça fait 10%.
Marie, bonjour. Vous êtes là, Marie, on vous écoute. Bienvenue.
Merci, bonjour à tous. Monsieur Lang, vous avez contribué à faire de la filière animation une filière d'excellence. À l'époque où vous étiez ministre de la Culture, je voulais savoir ce que vous pensiez de la disparition de la chaîne France 4.
Merci.
C'est une plateforme qui permettait aux diffuseurs, aux animateurs de lancer leur programme.
Merci Marie, je me permets de vous interrompre parce que la qualité de la ligne est vraiment mauvaise. Donc la filière animation et la disparition de France 4, Jacques Lang.
Oui, l'animation c'est un trésor national. Nous l'avons sorti de la de l'enlisement. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, les deuxièmes dans le monde. Des écoles de formation, des laboratoires, des centres de production, c'est une fierté nationale. Et la remise en cause de la quatrième chaîne risque de rendre difficile la survivance du film d'animation. Et cette question doit être examinée avec beaucoup d'attention. Et il faut se battre, d'ailleurs on se bat pour que le film d'animation reste ce trésor national.
C'est une erreur de fermer France 4 ?
Écoutez, c'est une erreur de cette façon de vouloir faire la énième loi audiovisuel. Ça ne sert à rien que de mettre en difficulté pendant des mois et des mois. Il va y avoir des discussions au Parlement. Pour faire quoi? Je pense que l'État, là encore, doit avoir une parole forte au lieu de chercher à changer la gouvernance et ceci et ceci et cela.
Ça servira à rien, tout ça.
À pas grand chose qu'à créer le désordre pendant des mois et des mois.
Enfin, il faut pas réformer aussi les services publics de l'audiovisuel.
On peut très bien réformer par l'exercice normal de la tutelle. Moi, j'ai le souvenir qu'à une époque, nous pouvions dire aux télévisions ou aux radios, Radio France, pardon, c'est pas parce que je suis ici que je le dis, Radio France est à part, c'est une fierté nationale. Mais la télévision, les télévisions publiques et privées, raréfient sans cesse la part de la culture, dans les journaux, dans les émissions. Il y a Stupéfiant, certes, bravo et excellente émission. Il y a La Grande Librairie, bravo, bravo, très bien, mais pour le reste. Et donc, que l'État, là encore, redevienne l'État. Ce n'est pas gênant que l'État affirme sa compétence culturelle et réclame davantage de présence de la musique classique, des musiques actuelles, d'émissions intellectuelles ou autres. Et ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin d'une loi pour faire ça.
Juliette, dans le Gard, sur l'application France Inter, pour les manifestations, quand j'organise une fête, c'est moi qui paye la logistique. Pourquoi, quand ces fêtes sont culturelles, ces manifestations devraient être au-dessus des lois, vous demande-t-elle?
Ben parce que je ne viens pas au-dessus des lois, il y a les lois, si vous voulez. Et si on considère que la vie culturelle participe à la fois du climat du pays, de la nécessité d'élever l'esprit collectif, et parfois aussi d'ailleurs renforce l'économie locale, pour quelle raison est-ce que on empêcherait ces festivals d'exister? On doit leur faciliter la vie et même leur dire merci.
Il est 8h42, merci à vous, Jack Lang, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation, président de l'Institut du Monde Arabe, d'avoir été au micro de France Inter ce matin.